Nous avons la chance, Anne, d'avoir une machine extraordinaire. Elle s'appelle la machine à remonter le temps. On l'utilise assez régulièrement en votre compagnie, Anne. Bonjour d'abord.
Bonjour Philippe.
Et elle nous entraîne comme ça dans le temps. La semaine dernière, on était avec les paysans. Hein,
oui, du 14e, 15e siècle.
16e siècle, voilà. Donc, c'était magnifique. Alors aujourd'hui, c'est un ouvrage un peu particulier que vous allez nous présenter puisqu'il s'agit d'un guide bleu publié par les éditions Hachette. Le guide Midi-Pyrénées. Les guides bleus sont devenus une référence en matière de guide touristique et culturel.
Il faut dire, Philippe, qu'ils ne sont pas récents. Depuis 1841, les éditions Hachette publient des guides de voyage. Et la première collection était celle des guides Johann, qui prennent le nom de guide bleu en 1916.
Alors, le texte que vous avez retenu cette semaine a été écrit par Jean-François Soulier, qui s'intéresse au premier voyage dans les Pyrénées, à une époque où l'on partait à la découverte de la montagne.
Au XVIe siècle, Philippe, et oui, au XVIe siècle, aborder les Pyrénées revenait à pénétrer dans des lieux inconnus, effrayants. Effrayants parce que les montagnes faisaient peur avec leurs précipices et leurs sommets menaçants.
Et on disait aussi qu'ils étaient le domaine du diable, des sorcières et des brigands. Et s'il y en a qui ont écouté les chroniques qu'on a fait il y a quelques années, la perception des Pyrénées à travers le temps,
oui.
On avait tout ça, effectivement. On en avait peur, hein. Il y a très peu. Aujourd'hui, c'est devenu un grand centre de loisirs,
oui.
les Pyrénées. C'est-à-dire qu'on y va pour skier, pour faire des randonnées, alors qu'on n'y allait pas à l'époque. Hein.
Non, non.
C'est qu'au début du 20e siècle qu'on vraiment...
Oui, ça, on commence finalement, elles deviennent un peu plus familières vers la fin du 19e siècle, mais enfin c'est surtout au 20e siècle effectivement qu'on les parcourt sans crainte.
Voilà, mais avant on n'y allait pas trop. Hein. D'abord c'était dur, on n'avait pas l'équipement et puis il y avait toutes ces légendes qui faisaient qu'on restait en bas, hein, dans les plaines. Allez, écoutez, on vous écoute donc Anna sur ce passage que vous avez retenu cette semaine.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Les chroniques ont déjà mis en valeur des guides et des récits de voyage écrits à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, grande époque des guides et récits de voyage. Mais nous n'avions pas encore parcouru un guide de notre époque. Aujourd'hui, grâce au guide bleu Midi-Pyrénées, nous évoquerons les premiers voyages aux Pyrénées qui correspondent à la découverte de la montagne. C'est un article signé Jean-François Soulet. Par une claire matinée du mois de mai 1582, écrit Jean-François Soulet, vêtu d'une chaude robe fourrée, la tête soigneusement enveloppée, afin sans doute d'éviter le vertige et de protéger ses yeux de l'éclat de la neige, M. de Candale escaladait péniblement les derniers mètres du pic du Midi d'Ossau. Plusieurs jeunes gens qui s'étaient offerts pour l'accompagner avaient rebroussé chemin, car vêtus de simples camisoles, ils ne résistaient pas au froid. Candale avait alors décidé de continuer avec seulement quelques paysans béarnais. Il était parvenu jusqu'à un endroit où il trouva, raconte Jacques-Auguste de Thou, des retraites de chèvres et de boucs sauvages qu'il vit courir par troupes sur ces rochers escarpés. Puis, faute de sentier ou de piste, il lui fallut se frayer un passage dans la roche même, utilisant les échelles, les crocs et les grappins qu'il avait eu la sagesse de faire fabriquer à cet effet. Une autre difficulté naquit pour lui et ses compagnons de la raréfaction croissante de l'oxygène. L'air froid et subtil qui les environnait leur causait des étourdissements qui les faisaient tomber en faiblesse. Heureusement, le sommet apparut enfin. Après quelques instants de repos, Candale prit son quart de cercle et choisissant pour rez-de-chaussée le courant paisible que les eaux qui se précipitent de rocher en rocher avaient formé, il estima à 1100 toises la hauteur du pic, ce qui n'était pas loin de la vérité. Ascension justement célèbre que celle de M. de Candale, tant en raison du courage qu'elle exigeait que du caractère tout à fait exceptionnel d'une pareille expédition. Les Pyrénées à l'instar de toutes les autres chaînes, effrayait beaucoup plus qu'elle n'attirait. Considérée à l'époque comme la terre d'élection du diable et de tous les êtres fantastiques que l'imagination populaire pouvait alors concevoir, supposée d'accès aussi insurmontable que les montagnes du Pérou, par les difficultés respiratoires que l'on était censé éprouver dès que l'on s'attaquait aux hautes cimes, regardée comme le repère des plus redoutables bandits de France et d'Espagne, elles ne furent longtemps abordées par les étrangers qu'avec infiniment de crainte, sous le seul empire de la nécessité et le plus souvent par leurs extrémités occidentales et orientales. Jusqu'au XVIIIe siècle, elles demeurèrent un objet d'appréhension et de répulsion. Néanmoins, une première brèche se fit dans le mur de crainte qui les entourait, les tirant peu à peu de leur isolement par la venue régulière de curistes dans les stations thermales. Des visiteurs parfois illustres et assez téméraires pour braver les dangers réels ou imaginaires que présentait alors le monde pyrénéen. Voici la reine de Navarre, Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier. Elle séjourne à plusieurs reprises à Cauterets, immortalisant la jeune station qu'elle choisit pour cadre de l'une des nouvelles de son heptaméron. D'autres souverains navarrais profitent également de la proximité des eaux pyrénéennes. Jeanne d'Albret est guérie de la stérilité grâce à celle de Bagnères de Bigorre. Son fils, Henri IV, fréquente les eaux chaudes et les eaux bonnes. Peu à peu, leur notoriété s'étend. Accompagnée de sa mère, Catherine de Médicis, l'épouse de Philippe II se rend à Cauterets et y trouve la fécondité. Aux altesses royales se mêlent quelques grands noms de la littérature du temps. Rabelais serait venu à Cauterets. Michel de Montaigne séjourne à Bagnères et Du Bartas nous a laissé quelques vers enthousiastes sur les bienfaits de nos stations thermales. L'élan étant donné, le mouvement amène tous les ans un contingent de curistes distingués. Il ne fléchira pas, même au XVIIe siècle, en dépit des très fortes réserves du siècle classique pour la montagne, dont le chaos blessait son désir d'ordre, d'équilibre et de raison. Barège est mise à la mode par le séjour de Madame de Maintenon accompagnant le jeune duc de Maine et par celui de Louvois. Certes, on s'ennuie beaucoup au milieu de ces monts affreux, mais l'on espère tout de leurs eaux quasi miraculeuses. « Je prends courage », écrit de Barège le 8 juillet 1675, Madame de Maintenon, « dans un lieu plus affreux que je ne puis vous le dire. Pour comble de misère, nous y gelons. La compagnie y est mauvaise et avec tout cela, je m'y porte fort bien. » Même résignation chez Louvois, 5 ans plus tard, qui déclare à son frère que les oiseaux ont trop de bon sens pour s'établir à Barège, mais qui reconnaît que les eaux y sont merveilleuses et doivent être, à son avis, plus estimées qu'une mine d'or. Au XVIIIe siècle, le nombre des curistes s'amplifia sous l'action conjuguée du changement des mentalités à l'égard de la montagne, de l'amélioration des communications et des installations thermales, et enfin de la propagande entreprise par quelques médecins pour mieux faire connaître les vertus spécifiques des différentes stations. Les Pyrénées n'ont pas toujours été le terrain de jeux, d'excursions, d'ascensions qu'elles sont aujourd'hui. Il a fallu une longue et lente approche de ces montagnes pour qu'elles deviennent familières. Le passage retenu a été écrit par Jean-François Soulet. Il est extrait de l'Atlas routier et touristique de Midi-Pyrénées. Cet atlas fait partie des guides bleus. Il a été publié par les éditions Hachette en 1980. 89.
Et voici comment on a apprivoisé peu à peu les Pyrénées grâce à leur station thermale. Jean-François Soulet cite Jacques-Auguste de Thou quand il évoque Monsieur de Candale escaladant le pic du Midi d'Ossau au XVIe siècle.
Alors Jacques-Auguste de Thou est un contemporain de Monsieur de Candale car il est né en 1553 à Paris. C'était un magistrat, un historien, mais aussi un écrivain. Il écrit notamment une histoire de son temps. Et en 1595, Henri IV le nomme grand maître de la librairie du roi.
Alors Candale mesure la hauteur du pic du Midi d'Ossau en toises. Il estime qu'il s'élève à 1100 toises. La toise vaut un peu moins de 2 mètres. Donc le pic s'élève à 2884 mètres.
Voilà, c'est la mesure que nous avons actuellement. Et nous laissons aux auditeurs le soin de faire de savants calculs entre la toise et les mètres. Mais j'aimerais ajouter qu'au XVIIe siècle, un sujet de Louis XIV n'en savait guère plus sur les Pyrénées qu'un contemporain de Pline l'Ancien, qui vécut au 1er siècle après Jésus-Christ.
Alors c'est pour cela qu'au XVIIIe siècle, elles deviennent un immense laboratoire et un merveilleux champ d'investigation.
Oui, botanistes, astronomes, minéralogistes, les arpentes, on en avait parlé dans la perception des Pyrénées à travers le temps, pour tenter de mieux les connaître. Et certains ont mouru, comme l'astronome Plantade, qui meurt en tentant de gravir le pic du Midi de Bigorre, mais qui a le temps de s'exclamer « Dieu, que cela est beau !»
Voilà, c'était sûrement ses dernières phrases.
Parole.
Merci beaucoup à Anne Lasserre. Et la semaine prochaine, nous partirons dans les Pyrénées-Orientales avec Victor Dujardin qui a publié un voyage aux Pyrénées et c'était en 1890. Ça nous ne rajeunit pas.
Merci et non,
beaucoup,
Philippe.
Anne Lasserre. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.